C'est ludique, 9h30, 10h.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est ludique. Au programme, je vais vous parler de Mlem Space Agency, un jeu de Rainer Knizia. En fin d'émission, on retrouvera exceptionnellement Morgane aujourd'hui pour débriefer le Fige, quels sont ses coups de cœur. Et tout de suite, c'est dans le rétro avec Jonathan de Terre de Jeux à Rennes. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors, comment s'est passé ton festival de Cannes, Jonathan ?
Eh ben, ma foi, plutôt pas mal, Mathieu. C'était assez, comme tu l'as vécu aussi, je pense, assez intense.
C'est ça.
Assez fatigant, des centaines de jeux à voir. Donc un programme fort chargé.
Et il y en a un qui sort des jeux, mais j'ai envie de dire presque toutes les semaines, c'est Rainer Knizia. Et je crois que tu vas nous parler d'un de ces jeux un petit peu plus anciens aujourd'hui.
Ben oui, j'en profite. Alors pas forcément de ces plus vieux jeux. Je vais vous parler de Mille Fiori, qui a dû sortir, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans.
Ouais, c'est ça.
Alors un jeu déjà qui était assez intriguant au niveau de son matériel. Dans Mille Fiori, on a un grand plateau de jeu avec différentes zones de couleurs et plein de petits losanges translucides en plastique, donc de différentes couleurs, hein, une couleur par joueur. Donc ça colle plutôt bien avec le thème, hein, parce qu'on va jouer des artisans et des commerçants du verre, il me semble, à Venise.
Oui.
Bah ouais, effectivement, ces petits jetons translucides vont retranscrire un petit peu ça. Le plateau, déjà, moi, quand je l'ai vu, il m'a évoqué un jeu d'un autre auteur, un jeu de Wolfgang Warsch, qui était très futé, qui était un jeu pour moi excessivement marquant il y a quelques années. Et bah, la ressemblance au niveau du matériel avec très futé n'est pas anodine, parce qu'on va vraiment retrouver la sensation de ce jeu-là, pour ceux qui connaissent, ce côté de créer des réactions en chaîne et une sensation de combo assez forte.
Ouais.
Donc l'idée du jeu, c'est qu'on va
avoir... Mais là, on n'a pas de crayon, hein.
Et là, on n'a pas de crayon. Voilà, Rainer Knizia va se différencier un petit peu de ce que Wolfgang Warsch a fait sur Tréfuté. Il n'y a pas de crayon, on va jouer sur un plateau. Donc, on va faire, je sors des gros mots, ce qu'on appelle un draft. On va avoir des cartes en main. Donc, à l'instar de Seven Wonders, on va tous sélectionner une carte qui représente une case du plateau. Et donc, c'est sur cette case du plateau qui représente notre carte qu'on va pouvoir jouer un de nos losanges. Et les cartes qu'on ne joue pas, on va les passer à nos voisins. Donc ça, bon, c'est un système qu'on a vu à maintes reprises et qui est assez efficace j'essaie de choisir la carte qui me plaît le mieux pour ma stratégie, mais je fais attention à pas laisser des trucs trop bien à mon voisin pour qu'il fasse pas trop de points de victoire.
Ouais.
Donc c'est comme ça que le jeu va fonctionner. On va poser nos losanges, et donc ces losanges vont venir se poser dans différentes zones. Il y a la jaune, la violette, la bleue, etc., qui sont autant de mini-jeux un petit peu différents. Donc là, on sent le lien avec Tréfuté, hein. La zone jaune va marcher à chaque fois que je joue des jetons adjacents, ça va faire plein de points. Dans les zones bleues et vertes, on va essayer de créer des pyramides en s'aidant des jetons posés des autres joueurs. Voilà, donc il y a autant de manières un petit peu différentes de jouer. Et comme dans Tréfuté, les zones sont parfois reliées les unes entre elles. Et donc, ça va créer comme ça des espèces de réactions en chaîne au niveau des points de victoire, de si j'ai bien préparé ma stratégie. Bah, c'est assez gratifiant de sentir l'explosion d'effets que ça va déchaîner. Ouais. La grosse différence avec Tréfuté, moi je le compare vraiment à ce jeu-là, c'est que dans Tréfuté, on va jouer vraiment dans son coin. On a chacun son propre plateau sur lequel on va venir griffonner des chiffres ou cocher des cases. Et bah là, dans Mille Fiori, on sent plus la patte de Rainer Knizia. On est en interaction avec les autres joueurs. Il n'y a qu'un seul plateau. Quand une case est prise par un joueur, plus personne ne peut y aller. Donc il va y avoir une tension comme ça permanente de peut-être mes plans vont être mis à mal par mes adversaires. Et donc d'un point de vue du placement, hein, comme ça peut rappeler un peu Carcassonne, hein, ce côté un peu placement interactif dont on s'embête, mais aussi dans le draft des cartes, de empêcher un joueur de faire des gros coups en sélectionnant la carte dont il avait besoin. Donc moi, Mille Fiori, je trouve que c'est une pure réussite en termes d'émotion que ça procure. C'est un ascenseur émotionnel de réussir des coups qui font parfois des points totalement ahurissants, où d'un coup vous allez faire peut-être une cinquantaine de points, et puis des fois justement un joueur qui va vous piquer l'action dont vous avez absolument besoin et donc mettre à mal votre stratégie. Ouais. Là où le bas blesse un petit peu sur ce genre de production en général, c'est le thème, hein. C'était des verriers, ça aurait pu être autre chose, hein. Mais
ça représente bien quand même, avec les petits cubes qui sont un peu transparents, translucides, on a vraiment l'impression d'avoir du verre, quoi.
Il y a un travail pour que le thème soit là quand même. Voilà, on va voir, il semble que c'est Venise avec la place Saint-Marc et ce genre de choses qui est représenté sur le plateau. Effectivement, les jetons, bah, qui peuvent évoquer effectivement des pièces de verre qu'on va produire. Après, c'est pas un jeu qui brille par son thème énormément, mais par les sensations de jeu qu'il va procurer.
Est-ce que tu avais joué à l'extension qui est sortie, je crois, l'année dernière?
J'ai joué un tout petit peu. Alors effectivement, Mille et Fiori, c'est peut-être le jeu auquel j'ai le plus joué l'année où c'est sorti. Ça m'avait énormément convaincu. Donc quand l'extension est sortie, j'ai dû faire 2-3 parties. Après, il y a tellement de jeux qui sont malheureusement. Je n'en ai pas fait plus. Ça rajoutait de mémoire pas mal de technicité quand même. Et beaucoup, encore plus d'interactions avec une piste sur laquelle on monte et on se fait un peu concurrence.
C'est un peu les genres de tréfutés à la puissance 3, les tréfutés, vraiment tréfutés. Enfin, c'est ça, on en rajoute toujours un petit peu plus, quoi.
Ouais, bah, le principe des extensions, effectivement, c'est vrai que sur Mille et Fiori, le jeu a déjà un gros goût de reviens-y. Ouais. Alors, pourquoi une extension? Pourquoi pas? J'ai l'impression qu'elles sortent de plus en plus vite, les extensions. C'est autant d'apprécier le jeu que l'extension est déjà là.
Ben merci. Merci beaucoup, Jonathan. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Dans le Rétro.
Merci Mathieu, belle semaine à tous.
Salut.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Un jeu de Rainer Knizia est toujours un événement. Alors cette fois-ci, il va nous amener en 2075. Les chats sont les rois de la Terre et ils ont décidé d'aller conquérir l'espace. J'ai envie de dire, bah pourquoi pas? En plus, les chats, c'est un thème qui plaît bien dans les jeux de société. Dans mes souvenirs, je ne crois pas les avoir vus encore dans l'espace. Voici donc Mlem Space Agency, un jeu de Stop ou Encore édité par Rebel Studio Asmodee. Alors, prenez les commandes de l'un des 5 centres de l'agence Féline et préparez vous envoyez vos chastronautes sur des planètes, des lunes et de nouvelles galaxies. Vos chats ont des capacités particulières, ils sont 8 et ont tous un pouvoir différent. Parachute, doubleur de points, commencer l'expédition sur le satellite au lieu de la case 0, notamment. Alors on est sur un jeu semi-coopératif, hein, parce qu'on avance ensemble dans la galaxie, mais à la fin, bah, il n'y en aura qu'un gagnant. Alors au niveau de la mise en place, vous posez le tapis de néoprène imprimé avec son effet waouh, plutôt miaou sur la table, qui vous emmène dans une galaxie lointaine. Sur le tapis se trouve une piste, hein, que votre fusée suivra et les différentes lunes et planètes à découvrir. Sur le tapis de jeu, la fusée en bois est placée en position 1, chaque joueur reçoit un plateau et tous les chastronautes de la couleur choisie. Les jetons pour garder la piste de score sont placés à côté du tapis à portée de main de tous les joueurs et le jeton échec sur la piste en dessous. Un joueur de départ est choisi, c'est le commandant pour ce tour, il récupère le plateau des vaisseaux spatiaux et les dés. Dans Mlem Space Agency, il y a plusieurs manches avec 3 phases dans le jeu, le décollage, le voyage et l'atterrissage. Alors pour le décollage, eh bien, le commandant place l'un de ses chastronautes sur le premier emplacement du plateau fusée et invite les autres joueurs à faire de même les uns après les autres dans le sens horaire. Vient ensuite le voyage, le chef récupère alors les 6 dés et commence le vol. A chaque lancée, le capitaine sépare les résultats des dés en groupes de valeurs correspondantes ainsi que les postes combustion. Les seuls groupes de dés que vous pourrez utiliser pour se lancer sont indiqués par la position actuelle de la fusée, c'est indiqué sur le tapis. Si votre fusée se trouve sur une case qui affiche des 1, des 3 et des postes de combustion, alors ce sont les seuls dés que vous pouvez utiliser pour avancer. Si aucun des dés du lancer n'est indiqué, la fusée explose, c'est un échec et chaque joueur récupère son chat et vous avancez d'une case, le pion échec. Si la fusée n'explose pas, on va la déplacer du nombre de cases en fonction des chiffres indiqués sur les dés. Vous avez un dé de 3 et un de 2, vous avancez de 5. Le commandant va défausser tous les dés sélectionnés, sauf ceux qui affichent une phase de post-combustion. Si lors de cette étape, le commandant n'a plus de dés, il en récupérera un de la défausse car il doit toujours en avoir un en sa possession. Si la fusée n'a pas explosé, on passe à l'atterrissage. Chaque chat astronaute va décider s'il débarque de la fusée ou s'il reste pour poursuivre l'expédition. On a un côté Celestia. Alors attention, on ne peut pas débarquer comme ça. Il faut que le pion fusée sur le tapis soit relié à l'une des lunes ou planètes. Si c'est une lune, les chats qui souhaitent débarquer dans l'ordre inverse dans la fusée peuvent prendre place sur une lune et gagnent des points. Sur une planète, tout le monde peut débarquer car il y a plus de place. Mais attention, les chats les plus nombreux auront plus de points. Si jamais vous arrivez tout en haut du tapis, les confins de l'espace, le voyage est terminé, tout le monde descend, le commandant va sur la comète, il reçoit 7 points de victoire et les autres chats débarqueront dans la galaxie, auront 5 points car ils ont fait confiance au commandant. N'oubliez pas que le commandant peut quitter la fusée, et oui c'est embêtant, mais c'est comme ça. Dans ce cas, c'est celui qui suit dans la fusée qui prend le commandement, il va récupérer les dés, ça sera à lui de les choisir pendant le voyage. Ensuite, quand le voyage est terminé, atterrissage ou explosion, c'est le joueur suivant qui devient capitaine. À tout moment, quand on rentre remplit les objectifs, on récupère une tuile avec des points. La partie s'arrête si l'un des joueurs a placé ses 8 chats astronautes ou si la piste d'échecs a atteint la 11e case. On compte les points obtenus sur les lunes, planètes et autres objectifs. Celui qui a le plus de points l'emporte. N'oubliez pas de faire attention quel chat vous envoyez car chacun a un pouvoir. Mlem Space Agency est un jeu où il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et vous allez me dire pourquoi ça s'appelle Mlem Space Agency. C'est parce que Mlem, c'est le chat hein, quand il lèche avec sa langue, ça fait ce bruit-là. Apparemment, c'est comme ça. Mlem.
C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
Alors habituellement, le jeudi, c'est on n'y rejoue pas. Mais aujourd'hui, eh bien, Copla n'est pas là parce qu'elle est partie découvrir des nouveaux jeux outre-Atlantique, j'ai envie de dire. Et on va retrouver Morgane. Salut Morgane.
Salut.
Alors toi, aujourd'hui, on va parler du Festival de Cannes. Justement, les jeux que tu as joués, les jeux que tu as aimés. Quels sont tes coups de cœur du Festival de Cannes?
Alors, il y en a eu quelques-uns quand même. Alors, pas forcément des gros coups de cœur, mais des jeux où t'as envie de rejouer quand ils jouent.
Ouais.
Je sais pas déjà si toi, t'as eu la même impression, mais cette année, j'ai l'impression que la tendance était plus aux jeux en petit format.
Ah bah oui, ça c'est clair.
Il y avait beaucoup de petites boîtes par rapport à d'habitude. Donc, ouais, il y a beaucoup de petits jeux, du coup, mais qui fonctionnent très bien. On commence avec Les Architectes d'Amitis, qui va sortir chez la boîte de jeux. C'est un jeu de joueurs de poste de tuiles, où en fait, on va construire la plus belle cité possible avec différents bâtiments et donc faire en sorte de bien les agencer. En fait, on va avoir un plateau central avec des piles de tuiles et devant nous, on aura notre plateau personnel. Quand on va choisir une tuile, on va poser un petit meeple dessus, ça va bloquer la pile pour le joueur adverse et on va placer cette tuile sur notre plateau et appliquer l'effet. Quand il y aura sur le plateau principal, on va aligner notre troisième meeple, façon un peu morpion.
Ouais.
Tu iras placer du coup un pion sur le plateau d'objectif, ça permettra d'avoir des points supplémentaires. Mais du coup, c'est vrai qu'on se retrouve avec plein de façons de scorer, parce qu'on a des points immédiats avec les tuiles qu'on place, on a des objectifs de couleurs, tu vois, de placement de couleurs sur notre plateau, des scorings de fin de partie. Il y a tout un mélange en fait qui a fait que ça fonctionnait très très bien et que ça donnait envie d'y rejouer. C'est très rare que je sois autant fan des jeux de joueurs, mais celui-là, c'est vrai qu'il fonctionne très très bien.
Il y a pas mal de jeux de joueurs cette année en tout cas qui arrivent. Et donc là, les Architectes d'Amitis, ça sort au mois de juin.
C'est ça, ça sort au mois de juin, ouais, du coup, donc chez la boîte de jeux. Ensuite, j'ai eu Temple Code, c'est le nouveau jeu de déduction de Johan Levé, qu'on ne présente plus maintenant, mais qu'on retrouve cette fois chez Banquise Éditions.
Alors, nouveau jeu de Johan Levé, il y en a des nouveaux presque tout le temps, Johan, puisqu'il y a Chronologique qui arrive la semaine prochaine.
C'est ça.
Donc là, c'est un jeu qui va sortir plus tard, hein, mois de juin aussi, je crois, mai-juin, quelque
chose
comme
ça. Oui, ça sort sur juin, je crois, ouais, voilà. Mais du coup, ouais, c'est une sorte de mastermind revisité, en fait. On va devoir retrouver les symboles cachés derrière notre carte, que nous, on voit pas, mais que les autres joueurs, ils voient dans le bon ordre, en interrogeant d'autres cartes qui sont situées devant les autres joueurs. Et en fait, quand on va interroger la carte, on va la récupérer et on va la placer au-dessus de la nôtre, donc face cachée. Et au dos, on va voir des triangles bleus et des ronds rouges qui vont nous indiquer, comme au mastermind, si on a des symboles qui sont bons, qui sont bien placés ou pas. Mais là où c'est malin, c'est qu'en fait, en récupérant une carte qu'on va interroger, on va permettre à l'autre joueur, donc celui chez qui on va chercher la carte, de vérifier aussi, d'interroger aussi une carte.
Oui.
Donc c'est vrai qu'on va faire attention de ne pas lui laisser une carte qui va lui donner un bon avantage, un bon placement pour sa solution. Je l'ai trouvé carrément plus accessible qu'un archéologique ou un Turing machine. Et là, en fait, on a vraiment un format de jeu de déduction qui est familial, qui sera vraiment pour toute la famille.
D'accord.
Et je sais pas à quel âge ils l'ont mis, mais je pense que dès 8 ans, c'est sans problème.
Ah ouais, dès 8 ans. Bon.
Ouais, c'est vraiment du jeu. Bah, en fait, t'as 3 symboles à retrouver dans un ordre, donc c'est vraiment du mastermind, mais le principe est très simple et beaucoup moins casse-tête qu'un Turing machine. Ouais.
Hâte de cette sortie, en tout cas. Même si je pense que je vais toujours perdre ma masque. Ou faut que je joue avec des enfants, peut-être.
Ça peut marcher, je vais essayer.
J'ai joué à être le plus petit plutôt qu'à être le plus grand.
Ça peut aider.
Autre coup de cœur, Morgane. T'en as combien de coups de cœur, d'ailleurs?
Il y en a eu 6 ou 7, je crois.
Ah oui, quand même.
Alors, ouais, mais c'est des jeux en fait, ouais, où t'as envie de rejouer. Donc, il y en a un que je vais sauter parce qu'on va en reparler bientôt dans un duel.
D'accord.
Donc, je n'en parlerai pas aujourd'hui.
Okay.
Mais du coup, il y a eu aussi Rivage Ketchup Games.
Ouais.
Là, on a un draft and write. Alors, on connaît les roll and write, les flip and write. Et ben maintenant, on a du draft and write. C'est tout simple à jouer. On part avec 2 cartes en main, chacune qui comprend 3 actions possibles. Et ces actions, en fait, elles vont nous permettre d'explorer des cartes deal, d'aller récupérer des bonus dessus. Mais en fait, on va pouvoir explorer plusieurs plusieurs cartes tout au long de la partie et donc ne pas rester bloqué sur une seule carte en essayant de la poncer à fond. Une fois qu'on a choisi l'action, sachant qu'on pourra toujours prendre l'action qui est la plus haute sur une carte, on va rayer ce qu'on a choisi et on passe les deux cartes à son voisin. Et ainsi de suite, j'ai trouvé ça très très malin, la façon
de pouvoir choisir
son bonus. Il y a de l'interaction en fait, parce qu'on veut pas trop avantager les autres. Et c'est assez rare dans les mécaniques de X and Y de trouver de l'interaction. Et là, il y en avait, donc c'était vraiment très très chouette.
Ok.
Il y a eu ensuite un proto chez Kif Edition. Je ne sais pas si tu as joué à celui-là.
Ah ben si.
Voilà, donc on a découvert du coup le prototype d'enquête.
J'étais tout seul d'ailleurs à faire le truc, j'ai galéré. Hein.
Nous, on l'a fait à deux et on a perdu. Donc,
oui, alors moi, j'ai pas perdu, mais j'ai été aidé un petit peu à la fin.
Ça aide aussi, c'est bien de se faire aider.
Très bon ça.
On a juste mal placé une ligne, en fait, donc la ligne qui était en dessous de...
Eh ben moi aussi, voilà, exactement, voilà. Le même problème.
Voilà, donc du coup, c'est un proto d'enquête, façon puzzle, en fait, qui va sortir en deuxième partie d'année. T'as en fait plusieurs petits carrés que tu vas devoir assembler en fonction de ce qui est indiqué dessus. C'est une sorte d'enquête à résoudre, des choses à assembler. Et une fois que t'as assemblé toutes les pièces, tu retournes chacune d'entre elles.
Ouais.
Et si ta résolution, elle est bonne, eh ben t'as un puzzle qui va apparaître.
C'est clair.
J'ai hâte de voir le résultat final parce que là c'était en proto, mais c'était déjà illustré par Pierrot, donc c'était vraiment très très chouette. Et là ça donnait envie. Alors de ce que j'ai compris, il y aura 3 enquêtes première boîte.
C'est ça.
Mais du coup, voilà, le principe était vraiment hyper chouette et c'est gratifiant quand tu arrives à la fin, que tu retournes ton puzzle et que c'est bon. Moi c'était pas le cas parce qu'on avait mis la ligne en haut, mais ça restait gratifiant de te dire que t'es arrivé quoi.
Alors moi j'avais oublié qu'il y avait des indices aussi. J'ai pas regardé les indices.
On les a pas non plus regardés, on les a oubliés aussi. Donc ça me rassure.
Allez, autre coup de cœur, Morgane.
Pray Another Day chez BlackRock Localisation. Du coup, c'était un peu l'only du festival. Hein. Pour moi, c'est vraiment le truc, tu te demandes d'où il sort et pourquoi. Mais en fait, quand il joue, ça marche directement. C'est un jeu tout simple qui a très peu de matériel puisqu'on a uniquement 25 cartes, 5 par joueur. Alors, il y a des petits jetons aussi pour marquer des points. On a 5 animaux. Du coup, on a un ours, un loup, un lynx, une chouette et une souris. Et on joue une carte face cachée et on appelle les animaux dans l'ordre du plus gros ou plus petit.
Ouais.
Donc, si un seul joueur a choisi l'ours, par exemple, il va annoncer un animal qu'ils souhaitent manger. Si des joueurs ont joué ces animaux demandés, ils vont révéler leurs cartes et sont éliminés. Par contre, si plusieurs joueurs ont joué l'ours, par exemple, ils sont retirés d'office de la manche en cours. On va ainsi annoncer tous les animaux et ceux qui ont résisté vont passer à la manche suivante avec une carte de moins. On fait ça pendant 3 manches en sachant qu'à la fin, s'il y a plusieurs survivants, ça se comptera au point puisque chaque animal a sa valeur. Et même si l'ours, c'est le plus fort en vrai dans le jeu, au final, c'est la petite souris qui rapporte le plus de points. Donc au final, on a un mélange de guessing, de prise de risque et de bluff qui fonctionne très très bien. Et puis 25 cartes, quoi, c'est tout. Donc,
c'est ça.
Et c'est vraiment le lit, quoi.
Toutes les illustrations ont été refaites par rapport à la version allemande, je crois, qui piquait un petit peu les yeux. Après, qui plaisait aussi avec un orange fluo. Là, c'est vraiment très, très mimi.
Ils ont fait quelque chose. Mais c'est vrai que quand tu le vois, t'as l'impression que c'est un jeu enfant. Et en fait, pas du tout. Enfin, on a joué dedans et c'est vrai que ça joue hyper vite. C'est hyper simple à comprendre. Et puis, le côté guessing est vraiment sympa parce que quand tu t'es le seul à avoir l'animal, tu dis allez, faut que je trouve le bon animal à éliminer, qu'est-ce qu'il leur reste, machin. Et donc, c'est vrai que ça fonctionne très très bien et ça prend.
On a une date de sortie ou pas?
Pas du tout. Enfin, moi, je la connais pas en tout cas.
Moi non plus. Voilà.
Mais je pense que ça devrait pas trop trop traîner. Je pense que ça va être avant l'été quand même.
Oui.
Mais ça devrait pas traîner non plus.
Si Damien nous écoute, il peut nous envoyer un petit message.
Voilà.
Encore un coup de cœur?
Ouais, alors c'est un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, c'est une bonne découverte que je veux rejouer. C'est Takenocolor. Takenocolor, j'ai pu jouer à la version Roll and Write qui sort du coup chez Bombix et Matago.
Ouais.
La version du coup de Takenoko que j'attendais énormément vu mon amour pour le jeu de base et les Roll and Write en général. Là en fait on n'a pas de dés, on a des feutres avec un espèce d'insert dessus qui représente un dé. Et en fait on va les lancer ces feutres pour découvrir les faces sur les couleurs concernées. Du coup, on va devoir choisir un feutre, remplir une case avec le symbole et la couleur associée sur notre feuille. C'est très familial, il y a 4 types de feuilles différentes pour monter aussi en difficulté. J'ai fait le niveau 2, j'avoue que j'ai hâte quand même de découvrir les autres niveaux pour voir si ça monte un peu plus en difficulté, puisque là, ça me paraît très familial.
Après, c'est plus jeu familial, hein. De toute façon, c'est annoncé comme
ça. La feuille de base était vraiment hyper basique, donc c'est vrai que pour un Roll and Write, tu t'attends quand même à plus. Mais c'est vrai que les 3e et 4e niveaux ont l'air quand même plus poussés, avec un peu plus de combos, de combos à aller chercher, de points à aller chercher, donc j'ai hâte de les essayer. Visuellement, il est magnifique.
Oui, hein,
c'est Takenoko, c'est le petit panda,
c'est...
voilà. mais voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vrai que c'est une bonne découverte parce que je voulais vraiment y jouer. Mais voilà, j'attends de voir si les 3 et 4 montent encore un peu plus le niveau, mais ça reste quelque chose de très familial pour jouer au Roll and Write avec les enfants. Ça veut marcher, quoi.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup Morgane pour tous ces coups de cœur du Festival de Cannes. Et puis, eh ben, on se retrouve demain.
Oui, bah, avec plaisir. Et puis, bah, y a juste le gros coup de cœur dont j'ai pas parlé, mais parce que t'en as parlé mardi. C'est deux pommes, trois pains.
Ah, deux
pommes. Donc voilà, j'allais pas en reparler.
Allez, tu as exactement moins d'une minute pour nous parler de deux pommes, trois pains, le banger de Cannes.
Ah ouais, le jeu d'ambiance de Cannes. Voilà, comme t'en as parlé mardi, c'est vrai que j'avais juste placé. Je vais pas le réexpliquer, mais vraiment, c'est un jeu que vous devez vous procurer. C'est le genre de jeu où le cerveau va bugger pour compter ces fameux pains, ces pommes et surtout ces pommes de pain qui vont tout venir perturber. En plus, quand tu rajoutes les variantes, c'est une catastrophe. Je sais pas si tu as joué avec les variantes. Hein,
ah bah alors, si, bien sûr, le pain au lait, le pain grillé 1, 2, 3.
C'est une catastrophe, mais ça marche tellement bien. Et même avec des joueurs, enfin moi j'ai joué avec des joueurs qui sont très jeux experts, très gros jeux. Et on a pris des fous rires toute la soirée. Donc vraiment... c'est comme tu dis, c'est le banger de Cannes et je pense qu'il va avoir un gros succès.
On pensait pas comme ça quand on me l'a présenté, je me dis ouais, et puis finalement plus tu y joues, tu te dis mais oui, bien sûr.
Ben, c'est ça, puis un jeu d'ambiance qui marche à deux, ça sent aussi très très bien. Ma première partie, je l'ai fait à deux et ça marche super bien.
Super, donc, merci beaucoup Morgane et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Cellulite. Salut!
Ça marche, à demain!